Henri-Jean-Marie Levet m'obsède. Je l'ai découvert à l'âge de 16 ou 17 ans. Il ne m'a jamais quitté. Les premiers poèmes que j'ai lus de lui, un peu par hasard, je les ai retenus aussitôt. Je peux les réciter encore aujourd'hui, par cœur, ou par ferveur, par attendrissement et par fidélité. Henri-Jean-Marie Levet s'est installé chez moi à la façon de ses amis un peu désinvoltes qui vous réconfortent et refusent de prendre congé. Le cas n'est pas si fréquent. Sa présence fantomatique auprès de moi, escortée de son œuvre si mince, n'avait cessé de me hanter. Elle m'était même devenue familière. Mais il faut prendre garde aux malentendus. Levet a appartenu à mon intimité. Je ne suis jamais parvenu à me glisser dans la sienne. Sans cesse, il s'est dérobé. N'est-ce pas le propre des fantômes ? Partir à la recherche de Levet, c'est accepter en somme le silence qui tourbillonne autour de lui, cette part d'incertitude dont il se nimbe, où il se retire. Pour employer un autre mot, Levet a toujours été, dès l'instant où je l'ai rencontré dans ma vie et dans mes lectures, une sorte de revenant. Mais un revenant, d'où revient-il lui-même ? Depuis quel étrange pays est-il parvenu jusqu'à moi ?
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Parfois, au détour d'une conversation sur les livres et les auteurs oubliés que l'on chérit en secret, quelqu'un finit par lancer le nom d'Henri-Jean-Marie Levet. Généralement, personne ne réagit. Inconnu des anthologies poétiques, ce dandy dégingandé, auteur d'une dizaine de courts poèmes difficiles à trouver, habitué des soirées du Paris Canaille au tournant du XXe siècle, n'a laissé qu'une trace légère dans les mémoires. Et c'est uniquement grâce à ses amis Valérie Larbeau et Léon Paul Fargue qui ont publié ses rares écrits après sa mort qu'elle ne s'est pas totalement dissipée. Frédéric Vitou, lui, l'a découvert adolescent dans la bibliothèque de son grand-père, disparu avant sa naissance. Étrangement, ses poèmes désinvoltes et nostalgiques, imprégnés de symbolisme et d'un exotisme ironique, il va les retenir sans effort. Et l'ombre fugace de Levet, emportée par la phtisie à 32 ans, l'accompagnera tout au long de sa vie, jusqu'à lui inspirer ce livre élégant et délicat, très personnel, qu'il lui consacre aujourd'hui. L'Express de Bénarest est tout juste paru chez Fayard. Bonsoir Frédéric Vitou.
Bonsoir.
Vous écrivez dans les premières pages de cet Express de Bénarès que Jean-Marie Levet vous obsède. Et pourtant, ce n'est pas un génie méconnu. Est-ce que c'est simplement le souvenir de cette émotion ressentie à l'adolescence quand vous avez trouvé un très vieux livre d'anthologie poétique très malmené par les temps dans la bibliothèque de votre grand-père ? Est-ce que c'est votre attachement à cette époque de votre vie, plus qu'à la qualité littéraire de Levet ?
À l'origine, incontestablement, c'est un enthousiasme d'adolescent qui n'avait pas bien conscience de ce qu'il aimait. Mais deux choses m'avaient retenu chez Levet. D'abord, le côté un peu inconnu. On est toujours content de découvrir un trésor qu'on croit être le premier à découvrir. Mais il y avait deux choses qui m'avaient fasciné chez Levet. D'abord, l'exotisme. Je lisais dans cette anthologie poétique publiée à la fin des années 20 qu'il était un poète consulaire, donc j'imaginais un homme qui voyageait loin, qui avait une vie aventureuse. Et puis la préface que je lis m'ouvre sur ce Paris incroyable de la bohème montmartroise au tournant du 19e et du 20e siècle. Donc il y avait cet exotisme-là sans que je cherche vraiment à me représenter l'importance de Levet. Aujourd'hui, je me pose toujours des questions. J'ai bien conscience que Levet n'est pas Rimbaud.
D'ailleurs, Proust, quand il a été réédité, Proust, lui, dit que c'est exécrable. Oui, la plupart des critiques trouvent ça médiocre.
Non, Proust trouve médiocre, mais il n'a pas lu les poèmes. Il est tombé sur une chanson qui était citée dans la préface et qui était une petite attaque indirecte contre Robert de Montesquieu et qu'il pensait être une attaque plutôt homophobe, ce qui n'était sûrement pas le cas de Levet. Donc, je ne pense pas que Proust l'ait lu. Mais Larbeau a dit, après tout, que s'il n'avait pas découvert les cartes postales, c'est le nom
du recueil des
10 derniers poèmes. Et au fond, il est connu, il est célèbre, il a de la valeur pour 10 poèmes. C'est quand même incroyable. Pour 10 poèmes, on en parle encore plus d'un siècle après sa mort. Mais Larbeau dit, si je n'avais pas lu jeune les 10 poèmes de Levet, j'aurais jamais écrit moi-même.
Alors, parmi ces 10 poèmes, ces 10 cartes postales que vous avez retenues par cœur, Frédéric Vitoux, il y en a une qui vous concerne personnellement, enfin personnellement, familialement parlant, c'est Outwards. On va l'écouter, dite par Henri Cueco.
Outwards, l'armement béique des messageries maritimes file 14 nœuds sur l'océan Indien. Le soleil se couche en des confitures de crime dans cette mer plate comme avec la main. Miss Roseway, qui se rend à Adélaïde vers le sweet home au fiancé australien, Miss Roseway, hélas, n'a cure de mon spleen, sa lorgnette sur les lacs d'Yves au loin. Je vais me préparer sans entrain pour la fête. Dès ce soir, sur le pont, lampion, danse, romance, je dois accompagner Miss Roseway qui quête, fort gentiment, pour les familles des marins naufragés. Ou qu'en une valse lente, ses reins, à mon bras droit, je l'entraîne sans violence dans un naufrage où Dieu reconnaîtrait les siens.
Frédéric Vitoux, quand vous parlez à votre père de ces poèmes de Jean-Marie Levet, et notamment de celui-ci, il vous révèle que votre grand-père a voyagé sur l'armement béique, qu'il est allé en Chine avec ce bateau. Donc déjà, il y a tout de suite un lien.
Ah non, mais ce qui est amusant dans mon rapport avec Levet, c'est d'une part que je trouve ça plutôt bien quand même, les poèmes de Levet. Et là, je me suis prêt à me battre avec vous, si vous voulez, sur parler même ce poème, je trouve formidable. Et peut-être on se rend moins bien compte à l'écouter de tous les jeux, les allitérations, les changements de rythme, le côté jazzé avant le jazz de ce poème. Et puis c'est une métaphore incroyable, cette mer plate comme avec la main, les confitures de crime du soleil qui se couche. Oui, mon grand-père a voyagé sur l'armement béique et ça a été un déclic. C'était cet exotisme inapprochable en quelque sorte, d'un seul coup prenait une sorte de familiarité au sens strict du terme. Avec moi, je pouvais presque toucher de la main cet armement béique et partant ceux qui avaient voyagé. Voilà. Et puis il y avait une autre ressemblance incroyable, c'est que les poèmes, encore une fois, qui lui valent sa célébrité à mon sens aujourd'hui, carte postale au pluriel, parce que c'était 10 cartes postales envoyées de 10 endroits différents. Curieusement, mon premier roman, il s'appelait « Carte postale ».
Mais ce qui est étonnant...
Et
quand
je me suis demandé si c'était un hasard ou non, je n'en sais rien.
Mais quand on vous lit Frédéric Vitoux, on se rend compte, et d'ailleurs c'est la raison même de ce livre, l'Express de Bénarès, c'est qu'en fait, il y a des coïncidences, des recoupements dans la vie de Jean-Marie Levet, dans la vôtre, mais il y a aussi l'amour de certains textes, de ce qui s'est passé dans ce Paris au tournant du 19e et du 20e, ces auteurs que vous avez aimés, que vous avez lus, et finalement l'écriture de ce livre a après être parti sur les traces de Levet. L'écriture de ce livre, vous le dites vous-même dans une très jolie page du livre que l'on va entendre maintenant, c'est en fait le prétexte à une conversation.
Je n'avais pas encore éprouvé simplement ce que je ressens depuis peu, cette lassitude ou cet ennui à écrire des romans, à faire une œuvre, comme on le dit de façon emphatique et un peu ridicule. Alberto Savigno a très bien noté ce sentiment dans l'un de ses livres, je ne sais plus lequel. L'âge venu, mais quel âge, disait-il en substance, on n'a plus guère envie d'écrire des livres qu'en forme de longues et tranquilles conversations. Une conversation avec soi-même, avec son passé, avec ses amis d'autrefois. Une conversation qui ressemblerait si possible, à mes yeux, à un art de haute civilisation. Une conversation pour parler enfin d'autre chose que de ce qui assaille et martyrise notre actualité. Le terrorisme, le racisme sous toutes ses formes, le drame des réfugiés, le chômage endémique, les élections présidentielles, les délations, les violences en tout genre, la faillite de l'école républicaine, l'Europe, que sais-je. Sur ces sujets déferle une cacophonie de propos intelligents ou stupides, de réflexions pertinentes ou hasardeuses, de simples opinions qui s'entrecroisent, qui s'entrechoquent et se répètent ad nauseam dans la presse écrite, à la radio, à l'occasion de débats, de face-à-face ou de tables rondes sur les chaînes d'infos en continu. Dieu nous en préserve. Si bien que l'on ne saurait rien ajouter de nouveau, d'intelligent ou d'informé qui ne soit dépassé ou contredit dans l'instant qui suit par d'autres informations encore inconnues de nous. une conversation, pour tout dire, loin des bruits et des fureurs du temps présent. Une conversation refuge, celle-là même que j'ai entrepris de renouer enfin avec Henri-Jean-Marie Levet, à la façon d'un entretien d'après-dîner, dans le salon d'un paquebot d'autrefois.
Frédéric Vitaud, ce besoin de conversation, ce besoin de se replonger dans les livres qu'on a aimés, dans les auteurs de ce Paris où à une époque d'optimisme, qui était le début du XXe siècle, il y avait une véritable effervescence intellectuelle. C'est aussi un besoin que l'époque vous a inspiré.
Les livres sont les produits de la solitude et les enfants du silence. Ça, c'est Proust qui le disait. Je pense que quand on écrit, bien sûr, je pousse à la limite ce raisonnement dans le passage que vous avez fait entendre. Il y a d'une certaine manière un recul par rapport au temps présent sur lequel, à force d'avoir le nez dessus, le nez sur le guidon, comme on disent les sportifs, on ne voit plus grand-chose. Et parfois, il est utile, il est réconfortant même, je dirais, de prendre un peu de distance et dans la solitude et le silence de l'acte d'écrire, de parfois de tourner la tête et de regarder en arrière. Cette liberté d'écrire, cette liberté d'ouvrir des parenthèses, cette liberté de converser, c'est aussi un des bonheurs moi, que j'éprouve comme lecteur avec certains grands auteurs. On a cité Alberto Savigno, je pourrais citer autrefois quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, qui était Bernard Franck, par exemple, cette liberté qu'il avait exceptionnelle dans ses chroniques comme dans ses livres, de passer d'un sujet à l'autre. Il y a beaucoup d'auteurs comme ça qui me touchent beaucoup par cette liberté-là. Et cette liberté-là, j'avais envie qu'elle m'entraîne vers, c'est l'un des thèmes du livre et l'un des thèmes de cette recherche, vers ce Paris, je dirais plus particulièrement Montmartre, cette butte Montmartre au moment où elle est en pleine effervescence. Ce n'est pas la butte Montmartre pour les touristes, pour les quarts de touristes, c'est pas, même si déjà commence le Moulin Rouge et tout un folklore de Montmartre que certains habitants de Montmartre vont d'ailleurs déplorer à l'époque, mais cette période absolument incroyable où voisine des peintres, des écrivains, des poètes, une bohème, des théâtres où l'on découvre Ibsen, Uburoy, enfin, et c'était d'une sorte d'effervescence absolument grisante, et c'est là-dedans que se glisse cet Henri-Jean-Marie Levet. Et quand j'ai écrit le livre, c'était parce que j'avais des images, c'était fausse. Et que ce qui est amusant, c'est qu'en partant à la recherche de cet homme, j'ai découvert un homme assez différent de celui qui me grisait quand j'avais 17-18 ans. C'est un autre homme que j'ai découvert. Ce n'est pas du tout un aventurier qui a voyagé dans le monde entier. Il a très peu voyagé, finalement. Il a fait un voyage aux Indes, et après, quand il a cessé d'être poète, cet homme incroyablement romanesque, finalement, dans sa vie, a été nommé consul parce que son père, qui était un notable de province, qui avait été pendant 30 ans le député inamovible de la circonscription de Montbrison dans le département de la Loire, l'avait poussé par piston à partir comme consul à Manille, puis après aux Canaries. Mais j'ai découvert un homme beaucoup plus trouble. C'est pas du tout un bel homme avec des belles Miss Roseway.
Il était comme très laid, oui,
pas du tout, c'est un homme introverti, plutôt ingrat. Laid, je ne dirais pas laid, mais ingrat, avec un menton en galoche que décrivent ses amis.
Et qui s'habillait en même temps comme un extravagant personnage.
Et probablement sa laideur faisait qu'il en rajoutait dans des tenues hallucinantes, extravagantes, qui ont frappé tous ses contemporains. C'est très bizarre. Parce que, encore une fois, il faut préciser quelque chose d'amusant. C'est que Levet a écrit 21 poèmes dans sa vie, pas un de plus. Il n'a laissé aucun document. Ses parents ont tout détruit à sa mort. On n'a pas une lettre de Levet. On n'a pas un manuscrit, un brouillon. On n'a rien. Donc on est dans une absence totale. Mais en même temps, cette absence totale, c'est le moment où peut surgir le rêve et la conversation pour combler les vides.
D'ailleurs, conversation, on en revient toujours là, Frédéric Vitaud, c'est votre point de départ sur cette absence de traces de Levet. En fait, c'est la préface à la réédition de ses fameux poèmes en 1921, chez Adrienne Monnier, bien sûr, et donc avec cette préface réalisée par Léon-Paul Fargue et Valérie Larbeau. Et cette préface est une conversation dans une voiture, ce sont des souvenirs reconstitués. Léon-Paul Fargue, on le sait, a beaucoup brodé. Pour le plaisir, on va entendre sa voix. Il parle d'une de ses innombrables revues à laquelle il a participé. Peut-être pas Levet, mais en tout cas, c'était ses amis.
À cette époque-là, nous avons fondé une revue luxueuse que nous appelions le Centaure. Nous avions fondé, nous, c'est-à-dire, c'était Henri Albert qui était le gérant de cette revue, Henri Albert, le traducteur de Nietzsche. Nous avions fondé le Centaure, c'est-à-dire Henri Dreyer, Blanche, Jacques-Émile, Gide, Valérie, Jean Tinan, André Lebet, qui est mort aussi, et puis quelques autres personnes là, d'ailleurs, je le sens tant, nous avions voulu faire une revue de grand luxe sur le modèle des magazines anglais, de The Pageant, du Yellow Book, etc. Ben Valérie était de ce Centaure, pour y revenir, et nous avions installé nos bureaux rue des Beaux-Arts, dans un premier étage, sur la
cour. Je me rappelle très bien ces deux numéros, car il n'y a eu que deux numéros.
Et nous cotisions, pour faire ces numéros, n'est-ce pas? Enfin, dans ces conditions-là, le Centaure n'a pas résisté longtemps à un pareil effort littéraire.
Frédéric Vitoux, c'est vrai que c'est exactement le milieu dans lequel évoluait Levet. Vous le comparez, par exemple, à Jean de Tinan, qui faisait partie de l'écurie de Willy, qui était le nègre de Willy. Et Jean de Tinan a eu une trajectoire un peu semblable à celle de Levet. Il est mort aussi très jeune. Mais ce qui les distingue, dites-vous, en fait, c'est que Tinan voulait faire carrière. Il avait une grande ambition, il s'en donnait les moyens, il écrivait partout. Il était en représentation et d'ailleurs il a laissé une trace, pas immense, mais il a laissé une trace pour ceux qui s'intéressent notamment à Willy et Colette par exemple. Mais Levet, lui, il avait une sorte de tristesse, de solitude. Il disait qu'il était en train d'écrire un grand livre, L'Express de Bénarès, qu'on n'a pas retrouvé. Est-ce qu'il l'avait écrit? Est-ce que c'était un mensonge? Au fond, on peut penser qu'il était très velléitaire.
Oui, le mot velléitaire, je le reprendrai volontiers à mon compte. Il n'était pas pris tellement au sérieux, c'est ça qui est très étonnant, par ses amis. On a parlé de Fargue et de Larbaud, c'est grâce à eux qu'on connaît Levet. Mais Fargue, qui était son ami intime, vraiment, il y avait deux hommes qui étaient les amis les plus proches de Levet, ils faisaient un trio inséparable, c'était Léon-Paul Fargue, Henri-Jean-Marie Levet et un troisième homme un peu oublié aujourd'hui, c'est injuste, car c'est un homme tout à fait passionnant, qui s'appelait Francis Jourdain. Et Francis Jourdain, qui avait dû être en rapport avec mon grand-père aussi, ça qui est amusant. Et ces trois hommes étaient vraiment inséparables. Mais au fond, Fargue et Jourdain étaient fascinés par Levet, par sa mémoire. Ici, il connaissait des poèmes par cœur. Il s'amusait de ses poèmes, mais je ne suis pas sûr qu'il le prenait au sérieux. Celui qui l'a pris vraiment au sérieux comme poète, et celui à qui on doit la publication, c'est lui d'abord, c'est Valérie Larbaud, qui, lui, l'avait jamais rencontré, mais quand il l'a lu, il a dit « j'ai compris que c'était un ami de mon esprit ». Alors, Levet est malheureux, il doute de lui-même, il fait des petits boulots dans un journal satirique qui s'appelle Le Courrier Français, qui tirait à plus de 100 000 exemplaires, qui était un journal important, mais qui n'était pas un journal littéraire, c'était un journal grand public, avec des illustrations admirables de Chéret, de Toulouse-Lautrec, d'Aubrey Beardsley, enfin des gens tout à fait remarquables. Donc il était... C'était un malheureux, je crois, Levet. Et puis il devait souffrir aussi de son physique. Il faisait le pitre, il faisait le zigoto sans arrêt pour ses amis en s'habillant de manière... Il les amusait. Mais je pense qu'il y avait un côté totalement déchiré. C'est ce que je soupçonne. Et son roman, voilà, il a dit à tout le monde qu'il était parti aux Indes, soi-disant pour faire à l'origine un travail d'enquête sur les origines hindoues de l'Arc-Mer. Mais à mon avis, il n'a jamais mis mettre les pieds au Cambodge. Et il n'a même pas écrit son rapport. Il a payé quelqu'un pour bâcler un texte hallucinant de médiocrité. Il a sans doute été aux Indes. Mais quand il revient des Indes, ses amis, Fargue le premier, disent « il nous raconte des choses qu'on aurait pu dire nous-mêmes, c'est tous les lieux communs qu'il sort ». Et ce roman, L'Express de Bénarès, c'est un peu pour ça que j'ai appelé mon livre L'Express de Bénarès. Parce que L'Express de Bénarès, c'est un livre dont il a raconté à tout le monde l'histoire ou les fragments d'histoire, mais les gens voyaient une pile de manuscrits épaisse et ils voyaient que la première page ou la deuxième page étaient peut-être des pages blanches, peut-être qu'ils étaient complètement mythomanes, on n'en sait rien.
Retour à l'Express de Bénarès, le livre dont nous parlons ce soir avec Frédéric Vitoux.
Mon père était un homme vieux, et je présume qu'il était surtout devenu vieux après ma naissance, durant ses années de captivité à Fresnes, puis à Clairvaux, dont il ne nous parlait jamais en famille, dont il ne voulait pas se plaindre. Vieux, il l'était à mes yeux, sans que je songe du reste à m'en étonner et à m'en émouvoir. Cette vieillesse était naturelle et voilà tout. Vieux par je ne sais quelle mélancolie qu'il habitait, le ralentissait. Je ne sais quelle forme de détachement d'un monde dont il n'attendait plus rien, semble-t-il. Il me faisait confiance. Je ne crois pas qu'il m'ait jamais interdit grand-chose. Il me laissait libre. ne me posait aucune question sur mes sorties, mes allées et venues, mes amitiés. Adolescent, je rentrais quand je voulais, me couchais quand je voulais, lisais ce que je voulais. Un fils de vieux est-il quelqu'un qui a pu jouir dans sa jeunesse, dans sa vie d'adolescent, d'une telle liberté ? Étouffé par sa mère et l'amour exclusif qu'elle lui voua, à lui son fils unique, mon père avait tout de même bénéficié de la part de son vieux père de cette liberté-là. Une liberté comparable à celle dont avait déjà pu profiter le jeune Henri-Jean-Marie Levet. Un vieux père, c'est quelqu'un qui se repose quand il regagne son domicile, exténué. Il observe son fils avec autant d'affection que d'éloignement, quand il a du moins l'occasion de le regarder. Oui, je pense encore une fois à mon père et à moi, à ces fils de vieux que nous fûmes l'un et l'autre, et je ne parviens pas à imaginer Henri-Jean-Marie Levet ne bénéficiant pas de la même affection lointaine de son père, qui devait le regarder par bien des côtés comme un étranger, mais qui se résignait à le chérir tel qu'il était, au loin, dans sa vie de bohème à Montmartre, sans prétendre le changer parce qu'il avait de son côté d'autres soucis, d'autres fatigues ou d'autres ambitions.
Frédéric Vitaud, il y a tout au long de ce livre, L'Express de Bénarès, cet entrelacement entre la vie que vous imaginez à Henri-Jean-Marie Levet et la vôtre, ce passage sur vos pères qui étaient vieux lorsque les enfants sont nés. C'est aussi le récit de votre voyage à Montbrison où il reste très peu de traces et votre rêverie justement autour de cette possible enfance au milieu de parents notables, bourgeois, de province à Montbrison, alors que Jean-Marie Levet, ensuite à Paris, à Montmartre, vivait une vie que ses parents ne pouvaient pas comprendre. Et c'est sans doute cela qui a expliqué cette décision tellement brutale de supprimer toute trace littéraire de leur fils après sa mort. C'est assez violent quand même.
C'est assez violent. Alors qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Je ne sais pas. Les parents Levet, dans un premier temps, se résignaient, pensant que c'était la jeunesse qui allait peut-être se passer, je ne sais pas, aux extravagances de leur fils. On a un témoignage sur Montbrison, où quand il était en vacances à Montbrison, il s'habillait en se teignant les cheveux de la couleur de ses costumes, de vert, pomme ou orange, enfin des trucs hallucinants. Et les dames de Montbrison regardaient le fils avec un attendrissement et avec un sourire en coin. Donc les parents laissaient faire, en quelque sorte, ce côté fils de vieux que j'ai évoqué. Mais ce qui est très mystérieux, c'est... Il y a une phrase, il faut toujours lire entre les lignes pour essayer de deviner ce qu'on n'a pas les témoignages. C'est quand Valérie Larbaud et Léon Polfargue vont, 5 ans après la mort de Levet, rendre visite à Montbrison, c'est en 1911, aux parents Levet. Les parents Levet promettent de leur confier les manuscrits, tout ce qu'ils ont en leur possession, des fragments de lettres, pour pouvoir réunir les œuvres, éventuellement réunir tout pour faire une publication. Et quelques jours à peine après leur retour pour Valérie Larbaud à Vichy, il reçoit une lettre du père Levet disant non, c'est très bien que ses amis se souviennent de lui, mais ça suffit. Non, ils comprennent, donc Larbaud et Farc, les parents ne donneront jamais rien. Et il ajoute, bon, en parlant de cette visite, on pourrait rajouter beaucoup de choses, mais il y aurait indiscrétion. Comme s'il y avait des secrets qu'il ne fallait pas dire.
Et c'est peut-être là que ces secrets... C'est peut-être l'homosexualité de leur fils.
Peut-être. Et je dirais presque plus la pédophilie de leur fils. Il y a un témoignage de Francis Jourdain qui raconte, par exemple, qu'à Montmartre, lui, il n'y croit pas. Il dit il faisait ça pour provoquer qu'il y avait le fils d'une concierge qui était un petit garçon blond, admirable, mignon, que tous les pédérastes du coin voulaient absolument séduire, et que Levet faisait venir chez lui. Et il dit que c'était uniquement pour lui donner des Jules Verne et lui offrir des bonbons. Peut-être. Mais enfin, c'est quand même un peu étrange quand même. Et puis quand on regarde bien les poèmes ou les textes de Levet dans ce fameux journal Le Courrier français, c'est souvent des thèmes récurrents. Donc il y a probablement beaucoup de choses que les parents ont dû être effarés de découvrir à la mort de Levet, je pense. Il y a sûrement une part d'ombre qu'ils ont découverte et qu'ils ont voulu probablement rayer. Mais il y avait aussi en même temps, sur l'extravagance de Levet, cette fatigue... Ce renoncement, à un moment donné de la vie de Levet, des parents, ça m'a semblé évident dans ce dialogue, au fond, dans cette conversation que j'ai avec Levet, de penser à des échos. Et en effet, j'avais un père qui, sur ce plan-là, n'a jamais pesé sur mon éducation. Jamais. C'est incroyable, je pouvais rentrer à 7h du matin, à 16 ans, et j'avais une chambre au 6e étage de l'immeuble. Ça lui était égal, il me faisait confiance. Il ne m'interdisait rien. Je voulais fumer, bah que je fume. Un jour, il m'a dit que ce n'est pas très bon pour la santé. Bon, puis il n'a pas insisté. Je n'ai jamais fumé, d'ailleurs, de ma vie. Je n'ai pas été particulièrement un adolescent frénétique, noceur. Non, mais il n'y avait jamais eu pour moi des interdits qui devenaient par là même prestigieux. Et finalement, je sais gré à mon père de cette vieillesse vis-à-vis de moi. Et je pense que Levet a... Il aimait bien ses parents, il jouait à les détester. Ouais, c'est des bourgeois, il disait, je vais les tuer, disait-il à ses amis. Un jour, vous verrez, vous verrez ce qui va se passer. C'est tout juste, il menaçait pas de tuer ses parents devant ses amis. Mais c'était évidemment une affectation.
Et en plus, il s'est passé quelque chose à la fin de la vie de Henri-Jean-Marie Levet. C'est qu'au fond, et vous le décrivez bien, Frédéric Vitou, il a renoncé. Et ses parents, son père notamment, a gagné, le pauvre homme, peu de temps, puisque il l'a convaincu d'accepter le piston que son père pouvait, en tant que député de Montbrison, pouvait lui obtenir auprès du ministère. Et il a réussi à le faire nommer brillamment vice-consul de troisième classe. Et en fait, à ce moment-là, Levet, qui donc racontait qu'il voulait écrire, devenir un romancier célèbre, se résigne, endosse un habit chamarré et s'en va d'abord aux Philippines, puis ensuite à Las Palmas, et il meurt. Donc c'est une fin de vie que son père estimait glorieuse, puisqu'enfin son fils se rangeait et rentrait dans la carrière, et qui en fait, pour Levet, a dû être absolument déchirante.
Déchirante, c'est le mot. Parce que juste avant de partir, il écrit 10 poèmes. 10 poèmes qu'il publie dans 3 revues, très confidentielles. Et ces poèmes passent presque inaperçus. Je dis presque parce que, par hasard, non pas les poèmes publiés en revue, mais le compte-rendu des poèmes parus dans une autre revue, avec des extraits, tombe sous les yeux de Larbaud. Et Larbaud dit, mais c'est extraordinaire ça. Du coup, il cherche à rechercher les revues fugaces, fugitives. On a évoqué tout à l'heure le Centaure avec la belle voix grave, comme ça un peu grumeleuse, de Fargue. Mais c'était incroyable à l'époque, le nombre de revues qui jaillissaient, qui duraient 2, 3 numéros, 1 an, 2 ans, guère plus. Il y avait un foisonnement, mais hallucinant, de créations culturelles, poétiques, littéraires, artistiques, parce qu'il y avait aussi des illustrations de revues dans ces années 1890-1910. Mais on ne soupçonne pas à quel point il y avait une vitalité. Et Larbaud tombe là-dessus, par hasard, et trouve ça formidable. Mais pour Levet, ces 10 poèmes, ces 10 dernières bouteilles lancées à l'eau.
C'est comme un testament.
Sans aucun écho. Et c'est tout ce qui était le plus triste, c'est que sans aucun encouragement de ses amis. Fargue, dans le dialogue, dans la préface en forme de dialogue qu'il consacre à Levet, l'enthousiaste, c'est Larbaud. C'est Larbaud qui voit tout ce que Levet va apporter. Et après, on va voir, même auprès de Paul Morand, auprès de Sandrard, il va jouer comme un rôle important, Levet comme fécondateur, si je puis dire, d'une certaine forme de poésie moderne. Mais Fargue ne le soupçonne pas vraiment. Fargue, lui, il est content de se remémorer un moment de sa vie, ce moment heureux d'avant la guerre de 14, avant que tout s'écroule et que l'histoire devienne cauchemardesque. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'assez bouleversant, cet homme qui envoie ses 10 bouteilles à la mer, ses 10 cartes postales, qui de son vivant avant n'a aucun écho. Et il dit, bon, maintenant c'est fini. C'est un renoncement, lui.
Mais ces 10 cartes postales, c'est effectivement son chant du cygne, c'est la fin. Et ce qui est très troublant, Frédéric Vitou, c'est que parmi ces 10 cartes postales envoyées d'endroits où il n'est jamais allé, il y en a une qu'il envoie de Nice, sur la Côte d'Azur. Et c'est justement sur la Côte d'Azur que quelques années à peine plus tard, il mourra exactement de la même façon oui. que celle qu'il décrit. On écoute, c'est une lecture de Jean Roudot, écoutée en 1976 sur France Culture.
L'Écosse s'est voilée de ses brumes classiques. Nos plages et nos lacs sont abandonnés. Novembre, tribunal suprême des petits ics. M'exile sur les bords de la Méditerranée. J'aurai un fauteuil roulant, plein d'odeurs légères, que poussera lentement un valet bien stylé. Un soleil doux vernira mes heures dernières, cet hiver, sur la promenade des Anglais. pendant que Jane, qui est maintenant la compagne d'un saint et farouche éleveur de moutons, émaille de sa grâce une prairie australe de plus de 40 000 carrés, me dit-on. Et quand le sang pâle et froid de mon crépuscule aura terni le flot méditerranéen, là-bas, dans la Nouvelle-Galles du Sud, l'aube d'un jour d'été l'éveillera, c'est bien.
C'est fou, hein, Frédéric Vitto. Ouais. Il l'a écrit. Ouais.
Et en plus, il l'a écrit. Peut-être la manière dont c'est lu, je n'ai pas de commentaire à faire, mais ne rend pas compte de cette légèreté, de cet humour aussi. Ouais. De c'est comme ça, l'aube d'un jour l'été l'éveillera, c'est bien. Oui, c'est fou. Parce que c'est vraiment par hasard. Parce que ses parents n'avaient aucune attache avec la Côte d'Azur. Simplement, au retour d'un congé quand il était un consul à Las Palmas, à ses parents, pour passer l'hiver, sa mère a loué une villa à Menton. Et il est mort quelques jours plus tard. Et c'est très curieux parce que ce fils unique qui avait été aussi adoré par ses parents, il faut, pour bien comprendre Levet, il faut imaginer que c'était un couple, c'était un mariage d'intérêt, on peut dire. Un homme épouse sa cousine, des notables de province avec de la fortune des deux côtés, des idées politiques à peu près comparables, plutôt de gauche, quoi, des républicains de gauche. Le père avait été totalement contre Napoléon III. Il s'était opposé à Mac Mahon quand il était maire de Montbrison. Il n'avait pas voulu le recevoir parce qu'on soupçonnait, à juste titre, Mac Mahon, premier président de la Troisième République, de vouloir faire une restauration monarchique. Donc il y avait un engagement assez fort des parents Levet. Et cet homme et cette femme se marient très jeunes. Ils s'aiment beaucoup, semble-t-il, et ils se désolent de ne pas avoir d'enfants. Et c'est seulement 15 ans ou 16 ans après leur mariage qu'enfin arrive le fils unique. Et on comprend cette passion aussi, cette manière possessive de la mère sur l'enfant et cette distance du père par cet amour effréné pour un fils qui est un fils de vieux, donc.
En tout cas, Frédéric Vitto, on sent bien à quel point cette destinée triste et légère de Levet vous a inspiré cette conversation que vous nous livrez dans l'Express de Bénarès. C'est un livre où vous vous racontez aussi beaucoup, c'est vraiment maintenant, et vous le dites, votre façon de poursuivre votre carrière d'écrivain, c'est de faire des livres plus intimes.
On ne peut jamais parier sur ce qu'on écrira par la suite, mais pour l'instant, oui. Je suis attaché à ces livres où je parle de ce que j'aime. Et j'aime Levet, j'aime cette période incroyablement romanesque de Montmartre, et aussi où je peux me livrer à des choses plus intimes et plus profondes et, je crois, plus nécessaires.
En tout cas, c'est un livre qui fait du bien. Il est nostalgique et pourtant il fait du bien, comme ça doit être. Merci à vous, Frédéric Vitto, l'Express de Bénarès, à la recherche d'Henri Jean-Marie Levet. Ça vient de paraître aux éditions Fayard. Merci à vous.
Merci.
Au revoir.